Vous savez que la fin du monde est prévue pour cette année? Ouais, vous savez tous? Tu l'as pas annoncé. C'est encore un peu loin, JL l'a pas annoncé. Voilà, alors c'est prévu pour le 21 décembre. Si j'ai bien compté, c'est 333 jours. Il nous reste 333 jours. Les hommes n'ont plus d'avenir. Mot futur, on dit. Jésus nous dit que personne ne connaît la date ni l'heure. Alors, le 21 décembre, on ne va pas s'en soucier. Mais quels que soient les événements, nous, nous avons un futur. Notre résurrection. On va parler ce matin un peu de la résurrection, donc ça sera dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 58. Le verset 20, il est habituellement là. Hein, Christ est ressuscité. Mais quand on parle de la fin du monde et du retour de Christ, qu'est-ce qui nous vient tout de suite à l'esprit? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Enfin, moi, je pense que ce qui nous vient à l'esprit, c'est que on se dit, hein, enfin, on sera toujours avec lui, chouette. Plus de pleurs, plus de larmes, on aura la paix, on chantera enfin juste. Tout va bien rouler, tout ira bien. On soupire après cet état de perfection perdu que l'on va un jour trouver, et on a bien raison. Le problème, c'est que on a souvent tendance à dématérialiser l'éternité. On se voit un peu comme des anges flottant dans les airs, des êtres immatériels. Et pourquoi cette tendance? Parce que souvent, on associe notre corps physique au péché, au désir, aux passions. On a du mal à apprécier correctement nos corps. Et c'était déjà le problème des Corinthiens, hein. Et dans cette épître, Paul veut corriger cela. Un des problèmes à Corinthe, c'était qu'ils avaient une mauvaise conception de leur corps parce qu'ils étaient influencés par la pensée grecque, la pensée qui magnifiait l'immatériel et considérait le monde matériel comme mauvais. Et il y avait un enseignement qui circulait dans cette église de Corinthe, disant que la résurrection des croyants était déjà arrivée. En gros, tous ceux qui croient en Christ sont ressuscités, puisque la seule chose qui compte, c'est le spirituel. Ainsi, puisque toutes les promesses se sont réalisées en Jésus-Christ, les Corinthiens n'avaient aucun problème à rester dans l'immoralité, comme on le lit au chapitre 4 et 5, ni besoin d'écouter les recommandations de l'apôtre qui parle de renoncement et de persévérance. C'est vrai, si tout est accompli, pourquoi faire encore des efforts? Si nous sommes ressuscités, déjà ressuscités, alors gloire à Dieu. Mangeons, buvons, faisons tout ce dont nous avons envie. Et Paul les reprend sur ce point-là. Il veut leur démontrer que la résurrection des croyants, elle est encore à venir. Toutes les promesses ne sont pas encore réalisées. La résurrection dont nous parle la Bible est bien corporelle, matérielle, physique et future. Le corps que Dieu nous a donné est quelque chose de très bon. C'est ce que nous lisons dans le premier chapitre de la Genèse. Mais c'est quelque chose qui va être transformé un jour. Et l'apôtre avance deux arguments pour expliquer la nécessité de cette transformation. Or, le premier, c'est que la résurrection est essentielle dans le plan de Dieu pour l'humanité. Or, on va lire 1 Corinthiens, au chapitre 15, donc, de 20 à 28 pour le moment. vous le lis dans la version du semeur. En réalité, le Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu, le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et tout pouvoir hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car il est écrit « Dieu a mis toutes choses sous ses pieds ». Mais quand l'Écriture déclare « Tout lui a été soumis », il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi, Dieu sera tout en tous. Et juste avant ces versets, Paul explique que s'il n'y a pas de résurrection des morts, comme certains le pensaient, alors Christ n'est pas vraiment ressuscité. Et s'il n'est pas ressuscité, alors il n'y a pas vraiment de salut. Et toute notre foi ne sert à rien. Bien pire, nous vivons dans l'illusion. Par l'œuvre d'un seul, on a tous été contaminés par le péché. Et tous tombés sous la condamnation de Dieu. Mais par l'œuvre d'un seul, il y a 2000 ans, nous pouvons être certains qu'un jour, nous pourrons vivre la résurrection de nos corps, et cela de manière parfaite et éternelle. Et cela est rendu possible parce que nous sommes unis à Christ. Ceux qui sont unis à Christ, comme le sarment est fermement attaché au cep, bénéficie de la vie du cep. Si Christ n'est pas ressuscité, nous ne ressusciterons pas. Mais s'il est ressuscité, et c'est le cas, alors nous ressusciterons aussi sûrement que lui est ressuscité. La résurrection de Jésus est une chose essentielle dans le plan de Dieu pour l'humanité. Et qui dit plan, dit ordre. Et aussi ordre chronologique, comme la traduction du semeur qu'on a lu l'explicite bien, hein, cette résurrection s'effectue selon un ordre déterminé. Alors voilà le plan de Dieu que l'apôtre nous expose. Il parle donc de trois phases. D'abord la résurrection de Christ. Ensuite, à son retour, la résurrection physique des croyants. Puis enfin, une dernière étape, tout sera parfait. Jésus, qui est le Seigneur, s'en remettra au Père, et Dieu sera le maître incontesté de tout l'univers de manière absolue. À ce moment-là, Dieu sera tout en tous. Quand Dieu a créé l'univers et notre terre, tout lui était soumis. Adam et Ève étaient en plein accord avec lui, et l'un avec l'autre aussi. Mais le péché est venu couper cette communion joyeuse, cette soumission joyeuse à Dieu, et la terre entière en a été chamboulée. Et après la résurrection de Christ, après notre résurrection, viendra ce jour où l'ordre divin sera complètement rétabli comme au début de la création. Dieu sera reconnu par tous comme le Seigneur incontesté. Et rien ne pourra faire obstacle à cela parce que Christ a anéanti tout ce qui se dressait contre lui. Alors, si la résurrection est essentielle dans le plan de Dieu pour les hommes, elle l'est aussi essentielle pour notre vie. On va lire la suite, versets 29 à 34. D'autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser au péril de leur vie? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc courir un tel risque en se faisant baptiser au risque de mourir? Et nous-mêmes, pourquoi affronterions-nous donc tous ces moments de danger de mort? Journellement, je vois la mort en face. Frères, aussi vrai que je suis fier de vous à cause de l'œuvre de Jésus, notre Seigneur. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre des bêtes fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela me sert-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme dit le proverbe, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas. Car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Et là, Paul devient concret. Il prend plusieurs exemples pour démontrer que le baptême, l'annonce de l'Évangile et une vie de poursuite de la sainteté n'ont de sens que si nous croyons à la résurrection future. Et tout d'abord, il parle du baptême. Or, dans d'autres traductions, il est parlé de baptême pour les morts. Et ce passage, traduit ainsi, a donné beaucoup, beaucoup d'interprétations. Se faire baptiser pour les morts, comment comprendre? Alors, en principe, quand on est devant un verset qui est difficile à comprendre, il faut regarder ce qui est dit avant et après. Et là, le verset 30, le verset suivant, commence par « et » et qui relie les deux, qui montre le lien évident. Et le verset 30 qui parle des risques de perdre la vie, risques pris à cause de l'Évangile, risques que prennent les croyants parce qu'ils croient à la résurrection des morts. Paul parle donc dans ces deux versets de la même idée, et il exploite deux exemples concrets, les dangers de se faire baptiser et les dangers d'être témoin de Christ. Et ce qui nous amène bien à comprendre ce verset comme il est traduit dans la version du semeur, le baptême était une chose risquée. À cette époque, et Colin, qui c'est qui régnait à Rome à cette époque? Non? Ouais, un empereur. C'était pas un certain Néron, non? Hein? Et Néron, c'était pas un tendre. Il n'était pas tendre avec les chrétiens. Hein? Et celui qui se faisait baptiser risquait de mourir parce qu'il affirmait être devenu chrétien. Donc c'est pour ça que le semeur dit, pour traduire cela, pourquoi certains se font-ils baptiser au risque de leur vie? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc courir un tel risque? On retrouve cette même idée dans les autres exemples que Paul donne pour proclamer l'Évangile, et on le voit en lisant les Actes. Paul et les apôtres n'ont pas eu beaucoup de respect de la part des autorités. Lui-même, Paul, pouvait en parler parce que lui-même a fait mettre à mort des chrétiens, entre autres Étienne. Proclamer l'Évangile, être témoin du Christ, c'est accepter la mort. Et la seule façon de persévérer pour proclamer l'Évangile, malgré les risques, c'est bien de croire qu'après la mort, il y a une résurrection. À l'époque de la domination romaine, plusieurs dizaines de milliers de chrétiens ont subi le martyre à cause de leur fidélité à Christ et au baptême des croyants. Être chrétien, c'est accepter le risque, accepter de porter sa croix, c'est-à-dire, selon le contexte de cette époque, accepter la mort à cause de sa foi. Et même à notre époque, ce n'est plus le cas dans nos pays occidentaux, mais il y a des pays où cette même espérance peut conduire à la mort physique. Puis le troisième exemple que prend Paul, c'est la discipline de la vie chrétienne. Certains chrétiens mangeaient et buvaient excessivement, vivaient dans l'immoralité, sans chercher à vivre selon ce que Dieu demande. Mais que change pour cela cette compréhension de la résurrection ? Nous vivons sur cette terre, mais nous ne vivons pas pour être sur cette terre. Nous devons vivre pour l'éternité, nous devons vivre sans excès, avec mesure, parce qu'un jour, nous comparaîtrons devant le juste juge, lors de la résurrection. C'est ce qu'on peut lire dans l'Apocalypse. Apocalypse 21, versets 12 et 13, c'est Jean qui parle de sa vision. « Je vis les morts, grands et petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors je sais bien que nos livres sont écrits dans un grand livre, un peu indépendant de cela, le livre de vie, mais est-ce que nos œuvres auront tout de même une influence quelque part ? Je pense que quand on sera devant Christ là-haut, il nous demandera quand même quelques comptes de notre vie. Cette doctrine donc de la résurrection, de cette certitude de résurrection, nous donne persévérance, encouragement, motivation pour vivre l'Évangile et pour l'annoncer aussi. Alors oui, un jour, nous ressusciterons. Et un jour, nous serons toujours en présence de Dieu. Et là, on chantera juste. Alors, bien sûr, c'est beau, cette résurrection. C'est beau, cette théorie-là, mais comment ça va se passer, notre résurrection ? Dans les versets suivants, Paul explique un peu. Dans les versets 35 à 50. Il nous dit, ce corps ne sera plus terrestre, mais céleste. Mais ce sera bien un corps. Verset 49, « Comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. » Une graine de tomate quand vous la plantez, c'est un tout petit truc qui n'est pas très joli d'ailleurs. On la plante en terre, elle disparaît. Par contre, elle donne naissance à un petit plant de tomate. Et ce petit plant de tomate, il grandit et puis il fait des tomates. Et les tomates, vous savez, quand elles sont bien bonnes, gorgées de soleil, elles sont bonnes. Et notre corps actuel, c'est un peu à comparer avec cette graine. Cette graine qui est destinée à disparaître, à mourir, à retourner à l'état de poussière. Mais notre espérance, c'est que le corps de la résurrection qui nous attend est un corps comparable à cette belle plante qui sort de cette petite graine. La plante qui pousse dépend de la graine. Les deux sont liés, mais ce qui émerge de la graine est infiniment plus beau et plus grand que la graine elle-même. C'est à cela que sont destinés nos cœurs, à être transformés par Dieu à la résurrection. et être enfin des corps parfaits, éternels, des corps qui ne peuvent se corrompre ni se fatiguer, des corps qui garderont toujours leurs facultés. Alors on peut voir des corps parfaitement musclés, sans aucune maladie, sans infirmité ni défaut, sans même aucun problème de poids ou de surpoids, ça vous dit quelque chose, sans mémoire qui flanche. Et Paul nous dit que cette transformation-là sera instantanée. C'est à partir du verset 51, voilà, il nous dit « Je vais vous révéler un mystère, nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. » Et Paul redit cette même pensée aux Thessaloniciens, quand il parle du retour de Christ. Les chrétiens qui sont morts ressusciteront en premier, puis ceux qui seront vivants seront instantanément transformés dans leur corps pour avoir un corps ressuscité. Nous serons ensemble enlevés. Pourquoi on va être enlevé? On va être enlevé pour être éternellement avec le Seigneur. Alors, pour conclure, on va lire les versets 54 à 58. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Or, dans ces versets de conclusion, j'ai tiré deux idées fortes. D'abord, loué soit Dieu. Et Paul, comme dans bien d'autres passages, fait des actions de grâce à Dieu. Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sa première réaction à lui en pensant à ce jour merveilleux de la résurrection. Loué soit Dieu. Je ne sais pas comment on réagit, nous, en pensant au jour de la résurrection. La mort est la conséquence de nos péchés. Elle est venue dans ce monde comme un jugement sur nous qui sommes pécheurs. Une malédiction à cause de cette nature de péché. Mais loué soit Dieu, parce qu'il nous donnera un corps ressuscité, preuve de notre victoire totale sur la mort et sur le péché. La mort n'aura plus aucun pouvoir sur nous. Le péché et ses conséquences n'existeront plus du tout. C'est pour cela que la résurrection physique est centrale dans la compréhension de l'Évangile. La résurrection nous montre de façon évidente la victoire de Christ sur la mort, sur le péché et sur la loi. La compréhension de notre résurrection est ce qui nous pousse à persévérer dans le travail pour le Seigneur. Et c'est la deuxième idée forte, persévérons et travaillons. À quoi sert l'Église et toutes ses activités s'il n'y a pas de résurrection? Alors, parce que la résurrection de nos corps arrive bientôt, soyons fermes dans notre foi. soyons persévérants dans nos témoignages avec amour. La peine que nous nous donnons au service du Seigneur n'est jamais inutile. Et pour finir, je vous lirai un verset de l'apôtre Pierre. Nous nous attendons, comme Dieu l'a promis, à un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Quant à vous, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen.
Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier parce que un jour, Seigneur, tu as décidé d'entrer dans nos vies. Et ça, c'est indépendant, Seigneur, de ce que nous avons pu faire ou de ce que nous pouvions mériter. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu diriges nos vies, et tu diriges nos vies terrestres, mais tu diriges aussi notre avenir céleste. Seigneur, merci parce que tu as été le premier d'entre nous à nous montrer la grâce. Aujourd'hui, tu es auprès du Père, tu l'as ressuscité, et aujourd'hui, nous pouvons vivre au bénéfice de cette résurrection. Et tu nous promets aussi que dans l'avenir, Seigneur, nous serons auprès de toi. Seigneur, nous te prions aussi pour notre semaine et que nous puissions ne pas être ébranlés et travailler sans relâche pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. C'est ça.
Encore un détail. Les convocations que j'ai tirées, là, j'en ai pas beaucoup. Je les mets sur la table au fond. C'est pour ceux qui n'ont pas d'internet et qui ne sont pas connectés. Ceux qui sont connectés auront vu que j'ai envoyé aussi des statuts, des règlements intérieurs, enfin tout ça. Si vous n'êtes pas encore membre de l'Église officiellement, il y a aussi des bulletins d'adhésion. Vous les rendez avant l'Assemblée générale. Merci.
Appuyez sur le bouton. Débrouillez. Il a changé. Ah oui, ça m'a fait peur.